Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Sud, bien le bonjour, bien le bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'émission, éventuellement en podcast sur le site de radiosud.be. Et nous allons démarrer aujourd'hui une nouvelle émission qui s'appelle L'Appel des Roches. Alors, L'Appel des Roches, c'est une revue dont vous saurez bientôt tout à son sujet. Et c'est une émanation d'une association qui a beaucoup de peps, car elle défend des patrimoines en péril. C'est une association qui est basée à Muneaux, mais aussi à Sainte-Cécile. Et en réalité, toutes les communes avoisinantes de Florentville feraient bien, à mon sens, de faire attention à ce qui se passe du côté de Muneaux. Là, je laisse planer un petit mystère. Peut-être que la musique d'introduction vous aura donné un indice sur le sujet. Il est question de vent, voilà, mais pas de cerf-volant. Autre chose que cela. Alors, j'ai trois représentants ici de cette association, du PEP, donc Patrimoine en Péril. J'ai Marie qui est là.
Bonjour.
Bonjour. Patrick aussi.
Bonjour.
Et Alain.
Bonjour.
Donc voilà, ils sont venus à trois pour nous expliquer les différentes questions en relation avec ce PEP et cet appel des roches. Alors, je vais peut-être demander à qui veut s'exprimer. Patrimoine en péril, avec S, m'avez-vous dit. Donc, du côté de Muneaux, en tous les cas, il y a plusieurs patrimoines qui sont en péril. Alors, pourriez-vous me dire de quoi il s'agit ?
Alors, patrimoine en péril avec un S, c'est effectivement pour couvrir l'ensemble des patrimoines à la fois naturels, culturels, bâtis, non bâtis, vivants, non vivants, qui existent sur Muneaux, mais plus largement sur la commune de Florentville et qui sont mis en péril. Et notamment donc dans la vallée entre Muneaux et Sainte-Cécile, par un projet d'implantation d'éoliennes. Donc PEP a été créé à l'issue du dépôt de ce projet pour lutter dans un premier temps contre ce projet et puis éventuellement pour valoriser et défendre les autres patrimoines qui figurent sur la commune.
D'accord. Enfin, j'ai été faire une balade à Muneaux, là, et c'est en effet une région tout à fait particulière au niveau, pour ne parler que de ça, que de sa biodiversité. La nature des sols est très variée sur un petit espace, et des paysages différents aussi, et donc la biodiversité est très importante, et notamment au niveau des oiseaux, mais ça, nous allons en reparler. Qu'est-ce qui a créé cette motivation de créer cette association, en fait, au départ ? Comment est-ce que ça s'est passé concrètement, je vais dire ?
Concrètement, donc, c'est l'idée qu'un promoteur éolien, Elicio, donc, présente un projet de construction d'éoliennes donc, entre Muneaux et Sainte-Cécile, et qui a mobilisé tout de suite une foule relativement importante de gens qui sont venus à la réunion de présentation d'Elicio du projet. Et là, le complexe sportif de Muneaux était déjà bondé à l'époque, 300 personnes, alors quasiment toutes, me semble-t-il, contre le projet éolien. Et puis, de cette présentation des 300 personnes, dans les 300 personnes, quelques dizaines se sont dit « il faut vraiment concrétiser notre opposition au projet et donc la constitution d'une SBL, patrimoine en péril ».
D'accord. On peut remarquer, quand on prend la route de Bouillon, là, il y a plusieurs affiches qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'éolienne. Je dois bien admettre que la région est vraiment magnifique. Rien que pour cet aspect paysager, j'ai un peu du mal à comprendre qu'on vienne abîmer le paysage. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Vous êtes bien sûr renseigné beaucoup plus sur tous les aspects. Vous n'avez pas simplement une approche NIMBY, comme on dit. Il y a vraiment une réflexion beaucoup plus profonde.
À la fois oui et non, parce que NIMBY, c'est quoi ? C'est pas dans mon jardin. Il me semble que la réaction que les habitants de Muneaux et Sainte-Cécile ont eue, c'est parce qu'on considère notre territoire comme étant un jardin, à mon avis, élargi. C'est notre terrain, c'est notre territoire, c'est notre... Voilà, on y vit depuis tout le temps, en tout cas pour certains, pour beaucoup d'entre nous. On y vit depuis tout le temps, et donc quand on nous parle comme ça du jour au lendemain, où eh bien, un projet industriel important va venir en plein milieu du jardin, donc voilà, désolé, mais pour moi, je considère que c'est vraiment dans le jardin, effectivement, et donc un projet industriel qui, pour moi, me semble-t-il, n'a rien à faire dans un jardin. Un projet industriel doit venir en zone industrielle.
Oui, c'est ce qui nous a tout de suite frappé, c'est le « pas ici », parce que c'était tellement invraisemblable d'aller mettre des éoliennes industrielles en plein milieu d'un milieu naturel préservé, que ça nous a motivés en disant des éoliennes déjà, en tout cas, pour commencer, pas ici. Pas ici, parce que c'est absolument pas un endroit adéquat pour implanter des éoliennes. En zone industrielle ou autre, mais là, en plein milieu, comme disait Alain, peut-être de notre jardin, ça semblait une aberration totale et une absurdité totale.
Pour que les auditeurs comprennent bien, est-ce que vous pourriez donner quelques chiffres, pas beaucoup, mais une idée de la taille d'une éolienne, du nombre qui sont prévus et où vont-elles être exactement, en fait?
Oui, en fait, c'est exactement dans la vallée entre Muneau et Sainte-Cécile, quand on est sur la grande route entre Bouillon et Florenville, on prend une petite départementale et c'est là qu'il y en a 6. Et dans le projet, ils nous ont annoncé à peu près une hauteur de 200 mètres, c'est-à-dire quasiment la hauteur de la tour Montparnasse. Et je peux vous dire que quand vous voyez la taille de ce genre d'éolienne par rapport aux habitations, c'est vraiment monstrueux, c'est écrasant, c'est vraiment quelque chose un géant d'acier envahissant.
C'est aussi d'ailleurs en réaction un peu de défense par rapport aux habitants de Ouattrinsart, puisque effectivement donc le projet des 6 éoliennes va vraiment être devant Ouattrinsart. Donc Ouattrinsart, c'est vrai, un petit village qu'on pourrait négliger, dommage collatéral. Mais voilà, mais n'empêche que ces habitants-là nous ont déjà dit que si le projet éolien se concrétisait, beaucoup déménageraient. Donc c'est vous dire qu'ils considèrent qu'ils vont être fortement impactés par le projet. Et donc Ouattrinsart, effectivement, et notamment aussi juste à côté, le tout petit hameau de Perrensart, quasiment 3-4 habitations, pardon. Et donc là, notamment, ces deux entités-là, malgré tout, de la commune de Florenville, seront encerclées par les 6 éoliennes de 200 mètres de haut.
C'est énorme, ça, hein. C'est... J'invite les auditeurs à aller voir des photos sur Internet. J'ai été voir dans des pays étrangers des situations comparables. Effectivement, c'est tout à fait atroce. Il y a un groupe d'éoliennes et puis un village qui est effectivement complètement écrasé. Mm-hmm. Et oui, ça c'est...
Il faut bien penser que les gens qui s'installent là, parce qu'il y a les gens qui ont toujours vécu là, comme disait Alain, mais il y a aussi des gens qui ont choisi de venir vivre là, justement... pour cet environnement, pour le choix de cet environnement. Et si ils se retrouvent encerclés ou face à des éoliennes géantes comme ça, qui finalement vont se trouver à une distance relativement proche, ça leur semble absolument impossible, quoi. Donc soit il y a forcément une dévalorisation de l'habitat, les gens vont vouloir partir, mais ils ne vont pas pouvoir revendre leurs biens correctement dans ces conditions. Donc d'autres personnes attendaient de venir s'installer, et maintenant, avaient l'intention de venir s'installer, et attendent de voir ce qui va se passer à cause des éoliennes. Donc là, maintenant, on en est à 2 ans de cette réunion d'information. Ça bloque tout, parce que personne n'ose investir, étant donné qu'on ne sait pas ce qui va se passer, quoi.
Moi, j'habite à Villers-de-Ventorval, et je viens de la ville, et c'est vrai que je suis venu pour la beauté, entre autres... la beauté des paysages, et que je prendrais très très mal qu'on vienne installer sur la colline en face de chez moi une dizaine d'éoliennes ou même 5 ou 6. Ça paraît tout à fait insupportable. Et est-ce que vous pourriez me donner une idée de la puissance d'une éolienne?
Alors là, je vous avoue que non. Au niveau technique,
je pense qu'ils... on n'est pas sûr, parce que ce sont des projections... qui ont été faites, mais on n'a aucune certitude ni sur la hauteur de l'éolienne, ni sur la puissance maximum qu'aurait cette éolienne. Sachant d'ailleurs que si on parle de puissance, ce sont des puissances installées, mais ça ne veut pas dire que l'éolienne va avoir ce rendement-là. Parce qu'en fin de compte, une éolienne peut tourner assez souvent et pendant un certain nombre d'heures, mais en réalité, son taux de charge, c'est-à-dire son efficacité quantifiée en mégawattheure, va peut-être être seulement de l'ordre du quart au maximum. Et dans la zone impactée de notre projet, ça risque d'être nettement inférieur. Peut-être même de l'ordre, certains ont fait des calculs et je crois ne pas trop m'avancer en disant qu'on n'aurait peut-être qu'une production de 12%.
Oui, je rejoins Christine, effectivement. Donc 12% de production effective, ça veut dire quoi? Que quasiment un jour sur 10, ou plutôt 9 jours sur 10, il n'y aurait aucune production de courant par rapport à ces éoliennes-là situées chez nous.
À ne pas confondre avec le temps pendant lequel l'éolienne tourne. Voilà. C'est, en revanche, par rapport à la puissance installée, c'est combien on récupère de mégawatts-heure. Et donc, voilà, la puissance installée, c'est en mégawatts, et la production, c'est en mégawatt-heure. Et c'est là qu'on voit que finalement, ce n'est pas rentable.
On peut prendre l'exemple d'une voiture pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. On va vous présenter une voiture qui peut rouler à 100 km/h. Donc ça, c'est en général le discours des promoteurs éoliens quand ils installent une éolienne. En réalité, cette voiture qui peut rouler à 100 km/h va rouler d'une part 75% du temps, parce qu'il y a des arrêts pour remettre de l'essence, pour que le conducteur se repose, etc. Mais en plus, elle va rouler à 25 km/h en réalité, et non pas à 100 comme le vendeur vous l'a fait miroiter. Et ce que disait Marie, effectivement, c'est que le 25 km/h, c'était une sorte de maximum constaté à aujourd'hui. Et dans la réalité, pour ce qui concerne l'état venteux de notre région, on roulerait donc à 14 km/h. Donc on nous a vendu une voiture qui sait aller à 100 km/h. Malheureusement, elle ne roule qu'à 14.
Et j'ajoute à ça qu'effectivement, la voiture, pardon, il a fallu la construire. Et donc, voilà, donc déjà une espèce de pollution, en gros, voilà, qui existe de par la construction même, de par l'aménagement des éoliennes, effectivement. Et donc voilà, à ces défauts-là de non-productibilité s'ajoutent effectivement les inconvénients aussi, bah déjà aussi d'amener effectivement donc ces éoliennes et de les faire tourner à un moment donné, parce que aussi, c'est une blague à part, mais pour les mettre en route, il faut un petit élément électrique, voilà, il faut les lancer de manière électrique aussi. Donc le vent seul ne fait pas tout, voilà, déjà au démarrage, il faut déjà une induction électrique. C'est déjà assez cocasse, me semble-t-il, au départ.
Oui, en effet, oui, tout à fait. Donc ben voilà, on a quand même là déjà une idée. En fait, je parlais de la puissance, hein, en général, c'est des mégawatts. Ouais. Et donc, ce n'est pas un bête câble électrique qui va pouvoir amener le courant produit jusqu'au réseau de distribution. Et vous m'avez parlé de cet aspect-là.
Oui,
donc,
c'est
même si elle ne produit que le câblage électrique, je vais dire, pour amener jusque le réseau de distribution, sera prévu au régime maximal, j'imagine.
Oui, alors bien sûr, le câble est prévu au régime maximal qui n'arrivera jamais, puisque que ce soit ici en Gaume ou ailleurs dans le monde, aucune éolienne ne produit à 100% de ce qui est annoncé. Donc ce câble électrique, il va être effectivement conséquent pour accueillir un hypothétique volume, mais il va être aussi cher à installer. C'est-à-dire qu'il va falloir rejoindre le point d'injection que nous situons à Chigny. Et donc de Muneau à Chigny, on va suivre ce que les autres ont fait auparavant, c'est-à-dire qu'on va suivre les routes, les infrastructures qui existent déjà. Donc on va passer au-dessus de Chassepierre, on va tourner à la barrière et on va remonter sur la hauteur Saint-Jean. Et nous pensons qu'ensuite, il serait trop cher de casser la chaussée dans Florenville. Donc on va tourner autour de Florenville en passant par le parc à conteneurs et puis en allant ensuite du côté du zoning ou de la ferme des Roses pour rejoindre Chigny. Et donc on peut imaginer, ce sera un article d'ailleurs dans le prochain numéro de l'Appel des Roches, on peut imaginer facilement que partant de Muneau, où 6 éoliennes sont prévues, nous allons suivre cette ligne et nous allons, pour la rentabiliser, installer des éoliennes sur la hauteur Saint-Jean, où là, nous savons que 3 éoliennes sont prévues, que certains agriculteurs ont déjà donné leur accord pour des locations de terrain. Nous allons ensuite donc derrière Florenville, vers le parc à conteneurs, où là, il y a également des terrains qui sont propices à la construction d'éoliennes. Et nous avons appris récemment que entre la gare de Florenville et le point d'injection, c'est-à-dire au-delà de la ferme des Roses, des promoteurs éoliens convoitaient les terrains pour justement installer à nouveau des éoliennes. Donc nous avons un risque fort d'encerclement de Florenville. Heureusement, tous les agriculteurs ne louent pas leur terrain aux promoteurs éoliens et certains résistent, mais il y a tout de même ce risque qui est bien présent d'un encerclement de Florenville juste pour rentabiliser cette ligne qui va partir de Muneau et qui va atteindre le point d'injection de Chigny.
Et donc, quand Patrick parle effectivement de barrières, ouais, on peut imaginer effectivement donc, que ce soit voilà, une suite de pylônes haute tension effectivement, bah, qui se chargent effectivement de conduire ce courant. C'est soit effectivement des pylônes haute tension, peut-être des tranchées dans le sol. Mais,
oui, ils ne les enfouissent pas d'ailleurs très profond dans le sol. Et c'est pour ça rencontre de l'eau, il peut y avoir effectivement certaines fuites et certains problèmes, sachant qu'on est quand même dans une région d'élevage.
Ce qui est embêtant aussi, hein, c'est qu'effectivement, donc Elysio arrivait dans un tel projet donc à Muneau, encore une fois, voilà, dans une conférence qui s'est faite voilà 2 ans maintenant, et en nous disant c'est un projet, on ne sait pas du tout vers quoi on va étudier, on va demander donc à une société technique de nous faire un rapport. Tout domaine confondu, qui nous fera décider, qui nous aidera donc à décider si effectivement le projet vaut la peine ou non. Ben, en attendant, donc il est question effectivement donc, de 6 éoliennes de 200 mètres de haut, donc à Muneau Sainte-Cécile. Et en attendant, nous, citoyens, ben, on nous présente un projet comme ça, et il est plus motivé alors qu'il trouverait effectivement que cette arrivée des éoliennes à cet endroit-là ben, n'est pas des plus souhaitables. Ben, donc une chose à faire, c'est de se rassembler ensemble, et avec des moyens du bord, bah, de tenter effectivement de contrecarrer le projet. Donc je veux dire par là que bah, voilà, le promoteur éolien a aussi facile effectivement de dire bah, c'est un projet, voilà, on ne sait pas du tout si ça va se concrétiser ou pas. Bah, en attendant, citoyens, faites avec, débrouillez-vous. Si vous voulez un recours contre le Conseil d'État, faites-vous plaisir. Mais nous, en tout cas, on va de l'avant, on verra bien vers quoi on va arriver.
Mmh. Oui.
Il faut bien dire qu'au départ, en fait, le départ de tout, ce sont des commerciaux qui vont démarcher des agriculteurs pour trouver des terrains où ils vont pouvoir, sur lesquels ils vont pouvoir implanter des éoliennes. Et ceci se fait de façon assez discrète. On leur laisse un temps assez court. On leur met pas mal la pression pour qu'ils signent rapidement. Et dans le contrat, il y a d'ailleurs une clause de confidentialité. Ils n'ont pas le droit d'en parler autour d'eux. Mmh. Et c'est seulement le jour de la réunion d'information qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'agriculteurs ont signé ces fameux contrats. Alors ce sont des contrats quand même assez mirobolants. Ici, on parle de 12 500 euros par implantation d'éolienne. Il est sûr que quand on présente ça aux gens, ça les interpelle et ils se disent oh, « ça serait peut-être pas mal ». Bon, on ne dit pas que, bien sûr, il va falloir quand même payer des impôts dessus. Et on peut se demander pourquoi un promoteur achète si cher, non, n'achète pas, je dis l'inverse, n'achète pas les terrains puisqu'il va payer si cher, puisqu'une éolienne est censée durer une vingtaine d'années.
On va garder la réponse pour un peu plus tard, on va écouter un petit peu de musique.
Exactement.
Et comme ça, je laisse les auditeurs et les auditrices s'interroger pourquoi, alors qu'ils en ont certainement les moyens, pourquoi n'achètent-ils pas les terres agricoles et préfèrent-ils les louer ? Alors, on va prendre comme premier morceau musical quelque chose d'un peu comique. Hein. Vous allez probablement le reconnaître, c'est « Le vent emportera ». Alors, ben, on espère que le vent apportera de bonnes nouvelles et pas de sombres projets.
Faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et aléatoire de la course à l'instantané de vélo, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera, tout disparaîtra. Le vent l'emportera, la caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent portera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera.
Voilà, le vent nous portera, espérons que le vent va nous porter vers de bonnes nouvelles pour finir. Hein. Après donc, 2 ans d'attente, c'est très très long quand vous avez une inquiétude qui pèse sur tout un village, une inquiétude ô combien légitime. 2 ans d'attente, savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est extrêmement problématique, ça paraît évident. On en était resté au fait un peu étonnant hein, qu'une société qui a probablement des gros moyens préfère louer un terrain alors qu'elle aurait tout à fait le loisir de l'acheter.
Effectivement, c'est très étonnant. Et on a creusé le sujet. En parlant de creuser, effectivement, l'installation d'une éolienne demande de creuser les sols. C'est un travail de titan. C'est un chantier absolument énorme. Et donc les terres se retrouvent bétonnées avec beaucoup, beaucoup aussi de ferraille. Et il faut un socle effectivement imaginé absolument énorme pour pouvoir faire tenir une éolienne de 200 mètres de haut. Et donc une fois que le terrain a été bétonné, ils sont tenus de remettre en état. Et si on veut implanter une deuxième éolienne, on ne peut pas utiliser le premier socle. Il faut en refaire un autre. Donc imaginez déjà ce terrain agricole avec tout ce béton à l'intérieur. Alors, remettre en état, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire normalement enlever, on devrait enlever le béton, etc. Dans certains endroits, c'est une remise, enfin pour nous, dans les contrats d'agriculteurs, c'était marqué une remise en état sur une profondeur de...
D'un mètre,
un mètre cinquante maximum. Donc ce qui s'arrange de faire, c'est d'enfouir finalement le socle plus bas que 1,50 m. Comme ça, il n'y a quasiment pas à faire. Ça, c'est une chose. Dans les endroits où, en revanche, effectivement, on enlève, on démantèle l'éolienne, alors il faut s'occuper du recyclage. Et ça, c'est pas encore résolu. Parce que les mâts sont extrêmement lourds, donc on va dire qu'on recycle le mât, mais que le reste, c'est dérisoire par rapport au poids total de l'éolienne. Or, les pales, qui sont quand même énormes, ne sont pas lourdes, mais sont extrêmement difficiles, voire impossibles à recycler.
Mais on les enterre généralement, hein, j'ai lu.
Souvent. Alors on nous présente parfois quelques pales qui ont servi pour agrémenter des jardins publics ou des écoles qui ont été recyclées comme ça. Mais enfin, ça peut pas être le cas pour toutes les éoliennes qu'on implante. Donc c'est problématique. Et les promoteurs savent bien que les terres bétonnées sont inexploitables réellement ensuite.
Et donc, normalement, effectivement, donc, le promoteur éolien, de par la loi belge, Région Wallonne, est obligé de donner une caution bancaire en vue de permettre le financement du démantèlement à un moment donné, 15-20 ans plus tard, donc à la fin de l'exploitation du parc éolien. Sauf que c'est un montant, c'est une partie seulement du coût réel de démantèlement.
C'est de l'ordre de 50 à 80 000 euros, nous ont-ils dit, en provisionnement. Sachant que ce provisionnement ne se fait pas en une seule fois, mais tout le long, pendant les 20 ans de vie de l'éolienne. Si bien que si la société disparaît entre-temps, toutes les provisions ne seront pas versées. Et que le coût réel, c'est environ 400, au moins 400 000 euros.
Mais c'est toujours une histoire de chiffres, effectivement. Et donc là, qui livrait à un moment donné... Pour l'instant, on ne sait pas, on manque d'expérience aussi, on n'a pas suffisamment de retours, mais en tout cas, effectivement, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, semble-t-il, alors que la caution d'emblée n'est qu'une partie de ça, et que le risque aussi, malgré tout, c'est que ce sont donc les promoteurs éoliens, ce sont donc des sociétés qui vivent, qui peuvent bien vivre, mais qui peuvent aussi mourir de faillite, par exemple, ou bien se faire racheter par d'autres, et notamment, le danger aussi, notamment, c'est peut-être qu'un promoteur éolien qui serait arrivé à un endroit à un moment donné, ne soit plus le même quelques années plus tard, soit racheté par une entreprise étrangère, comme par exemple Eneco, effectivement, qui est hollandais, qui a été racheté tout à fait récemment par les Japonais, Mitsubishi, et qui peut nous garantir que Mitsubishi, à un moment donné, à la fin de la mise en service du parc éolien, respectera effectivement la parole donnée 15 ans plus tôt par un promoteur hollandais.
Mmh. Alors on parle un peu de tout ça dans notre journal L'Appel des Roches, qui nous sert de lien avec toutes les personnes qui vivent sur la commune, puisqu'il est distribué dans toutes les boîtes, dans tous les villages de la commune. Et nous essayons de varier les articles pour parler un petit peu de tout ce que nous avons à défendre, justement, tout ce qui est riche dans notre commune, et donc notre patrimoine. Et notamment tout ce qui concerne la biodiversité. Nous avons déjà fait un article sur la cigogne noire, qui est une espèce rare, qui a trouvé à nicher chez nous. Et donc, qu'on souhaite garder et continuer de protéger. Nous avons aussi une avifaune donc extraordinaire, le Milan royal, qui aussi trouve son compte ici entre les pâtures dans lesquelles il peut chasser et puis les forêts juste à côté dans lesquelles ils peuvent faire leur nid. Et surtout, nous avons aussi un nombre de chiroptères différents, de différentes espèces de chiroptères très très importantes, et notamment un petit chiroptère qui avait complètement disparu du royaume de Belgique et qui est revenu s'installer chez nous. Et ça, c'est formidable. Et donc, je pense que on a vraiment conscience de cette biodiversité à protéger, et on essaye de le relayer auprès de la population par le biais de ce journal notamment.
Oui, comme je le disais tout à l'heure, j'habite à Villers-de-Ventorval, et donc ça fait partie d'une des communes de Florentville. Donc le journal est distribué dans toutes les communes de l'entité de Florentville. Et l'explication qui a été donnée tout à l'heure, la nécessité d'une ligne à haute tension entre Muneaux et le point d'injection dans le réseau à Chigny, fait qu'il y a de grandes chances que le long de cette ligne électrique soient installées d'autres éoliennes. Et ça insiste bien sur le fait qu'il n'y a pas que Muneaux, Sainte-Cécile qui sont impliqués. Alors j'ai le numéro précédent, je pense que c'était le précédent, qui est sorti en mars, numéro 6, où on voit la petite chauve-souris. Alors, pour les auditeurs que ça intéresserait, c'est Barbastella barbastellus. C'est une petite chauve-souris tout à fait typique. Et c'est un très, très joli journal, d'ailleurs. Je voulais vous féliciter. Je ne sais pas qui a fait la mise en page, mais c'est vraiment chouette. C'est comme un journal.
Nous avons dans nos membres quelqu'un dont c'est le métier et qui nous aide.
Ah, voilà. Ah ben oui, on sent bien qu'il y a... ou une professionnelle derrière.
C'est vrai que dans les 37 membres de l'ASBL qui constituent donc Patrimoine en péril, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des gens très intéressants.
Les 37 membres effectifs, des membres effectifs, mais des membres adhérents,
nous en
avons quasiment 900, je pense.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais c'est plutôt dans les 900, ce n'est pas quelqu'un des membres effectifs, c'est quelqu'un qui est dans un adhérent lambda.
D'accord. Tout le monde est bienvenu, effectivement. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser au passage peut-être qu'effectivement, par exemple, les gens qui souhaiteraient donc se joindre à notre équipe, et voilà, on est toujours en permanence en recherche d'idées, en recherche de plein de choses, encore une fois, en vue de défense de patrimoine de toute nature. C'est vrai que pour l'instant, on est un peu braqué contre le projet éolien, mais il n'y a pas que ça. On voudrait bien aussi donc promouvoir, bêtement, nous rappeler qu'on vit dans une région magnifique, simplement, et qu'il est dommage donc de voir saccager par d'un projet industriel, et donc notamment donc d'un projet de défense donc de ce milieu naturel, mais aussi culturel. Enfin voilà, un peu comme vous à Radio Sud, vous brassez dans plein de domaines différents. Eh bien nous aussi, à notre petit niveau, on cherche aussi à défendre, enfin défendre peut-être un grand mot, en tout cas à continuer quelque chose qui existe et qu'on ne voudrait pas se voir dégrader, et ça encore une fois tout domaine confondu. Et donc j'en profite pour leur glisser l'adresse mail, par exemple,
c'est une excellente idée,
de Patrimoine en péril, qui est, si je me souviens bien, mes petits camarades, je compte sur vous pour me récupérer si je me trompe, donc c'est muno6820@gmail.com.
Encore une fois,
muno6820@gmail.com.
Voilà, donc chers auditeurs, chères auditrices, si vous habitez dans la région, si vous vous sentez concerné, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, au sujet des chauves-souris, j'ai été rencontrer le frère Xavier, qui est l'économe de l'abbaye d'Orval, ainsi que M. Titeux, qui est un garde forestier, et alors qui vont expliquer tout le projet qu'il y a dans les prés d'Orval pour la protection des chauves-souris. Alors, il faut bien admettre que ce serait complètement absurde de dépenser de l'argent d'un côté pour offrir aux chauves-souris. Et d'ailleurs, elles aiment beaucoup, elles sont très bien.
Il y a une très belle colonie de chauves-souris sur Orval. Et plus vers chez nous, elles trouvent aussi, parce qu'il y a beaucoup d'anciens tunnels, de l'ancienne voie de chemin de fer, d'anciennes cavités aussi, et dans lesquelles elles trouvent refuge l'hiver. Donc vraiment, le milieu leur va très bien.
Voilà, et puis on ne peut pas leur demander de partir, ce serait dommage.
Pourquoi protection des chauves-souris? C'est parce que, voilà, dites-moi d'un nouveau si je me trompe, les amis, mais il me semble que donc la chaleur, malgré tout, produite par les éoliennes, peuvent attirer donc certains insectes, et donc attirer par le cou, par la bande, certains oiseaux aussi, effectivement, qui pourraient s'en nourrir. Alors les chauves-souris particulièrement, en tout cas, qui se rapprochaient des éoliennes, j'avoue que je n'ai pas la réponse, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec un phénomène de pression-dépression, une chauve-souris qui approche une éolienne de trop près, eh bien, on voit tout simplement ses poumons, je crois, exploser.
C'est interne, hein, ça veut dire que l'enfer...
membrane interne explosée. Donc voilà pourquoi l'importance de la protection du chauve-souris par rapport à un projet éolien général.
Ben, j'étais faire une balade de plantes comestibles avec Madame Bernadette, qui habite aussi à Villers d'ailleurs. Et à un moment, on se balade au bord, et il y avait une plante qui avait l'air tout à fait anodine. Elle dit, voilà, si vous cueillez ça, ça vous coûte 5 000 euros d'amende. C'était une orchidée. Il y en avait deux l'une à côté de l'autre, donc si on cueille les deux, ça fait 10 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, dans l'idée des autorités qui ont pris ce genre de décision, une nécessité forte de protéger.
Ah mais on est bien d'accord. Alors il y a un projet, figurez-vous, du côté de Somton qui a avorté effectivement assez récemment, donc un même projet d'éolien effectivement et donc un permis d'urbanisme qui a été refusé finalement par les autorités. Et ce qui est amusant, c'est que, ou intéressant, c'est que le territoire de Somton correspond assez pas mal au nôtre de Sainte-Cécile-Munaux. Et notamment, donc, le projet de Somton a échoué à nouveau pour des questions de biodiversité, pour des questions de protection effectivement des chauves-souris et autres oiseaux volants. Et du reste, quand vous dites autorité, effectivement, administration qui donne un avis dans le cadre donc, de l'enquête publique qui est faite, de la demande de permis d'urbanisme, eh bien, voilà, les deux pôles d'aménagement du territoire et du pôle environnement, donc qui sont les entités administratives qui ont leur mot à dire, notamment donc, du côté d'Arlon, du côté du ministère de l'urbanisme, eh bien, eux, voilà, reconnaissent clairement que Somton, en tout cas à l'époque, n'était pas un endroit des plus propices à l'éolien, d'ailleurs assez opposé contre le projet. Alors ça nous donne bon espoir de penser que Munaux, finalement, va être défendu de la même manière que Somton, effectivement. Et encore une fois, dans l'avis des deux pôles, on retrouve énormément de choses de Munaux, effectivement. Et donc, en protection d'un site remarquable, effectivement, les chauves-souris, à nouveau aussi à la limite de zones protégées. Donc, vous parlez effectivement des orchidées, je ne sais pas très bien où elles se situent, mais en tout cas, si vous les avez trouvées du côté de la Roche-la-Pelle, tout ce coin-là est une zone protégée, avec des réserves Natura 2000, ce genre de choses. Et donc déjà, effectivement, donc des zones qui sont naturellement reconnues et nos gouvernements qui mettent de l'argent dans la défense de ces territoires parce que un peu bien, un peu beau et un peu, voilà, et respecté. Alors tout ça serait mis à mal par un projet à nouveau industriel. C'est vrai qu'il y a quand même une logique dans l'histoire qu'on a du mal à comprendre.
C'est le paradoxe écologique.
Voilà. On va écouter une petite chanson, tenez, pour clôturer le sujet des chauves-souris. Hein. C'est une chanson de Thomas Fersen qui parle d'une chauve-souris, drôle de chauve-souris, qui est amoureuse d'un parapluie, si je me souviens bien.
Exact.
Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, par goût du désespoir, car tout glissait sur lui. Une chauve-souris aimait un parapluie, aimait un parapluie. Elle marchait au radar, le sommeil l'avait fui, elle voulait se mettre à boire, se jeter au fond d'un puits. Une chauve-souris aimait un parapluie, un grand parapluie noir découpé dans la nuit, découpé dans la nuit. Sans jamais s'émouvoir pour cette chauve-souris, le grand parapluie noir sortait de son étui. Il prenait sous son aile soin d'une belle de nuit qui boulevard Saint-Marcel le nourrissait de pluie. Puis le grand accessoire se mit à voyager dans son bel habit noir, son habit noir de jet. Après le palabre pour faire un peu d'osier, un avaleur de sabre le mit dans son gosier, le mit dans son gosier. Un acrobate servit le balancier, un vendeur de cravate le prit comme associé. Puis il se déplia sur une permanente, puis il se déplia car il pleuvait sur Nantes, car il pleuvait sur Nantes. Une chauve-souris, demoiselle de la nuit, une chauve-souris aimait un parapluie. Elle vint chercher l'oubli au fond d'un vieux manoir où elle mourait d'ennui pendant que le parapluie menait au Père Lachaise une vie de bâton de chaise. mauvais temps, un jour de mauvais temps, un brusque coup de vent lui mit les pieds devant. On le laissa pour mort dans quelques caniveaux. On le laissa pour mort avec le mec dans l'eau, avec le mec dans l'eau. En voyant son squelette qui faisait sa toilette parmi les détritus et les denrées foutues, c'est la chance qui me sourit et voilà la chauve-souris. Je le croyais perdu, le manche est revenu, le manche est revenu. Riant comme une baleine, pleurant comme une madeleine, une chauve-souris aimait un parapluie. Ils allèrent se dire oui dans le grenier de la mairie. Une chauve-souris aimait un parapluie. Une chauve-souris aimait un parapluie.
Alors on y retourne là. Bientôt quelques secondes,
une
on y va.
Une chauve-souris aimait un parapluie.
Et bien voilà. Une chauve-souris qui aime un parapluie, cette histoire se termine bien. La chauve-souris n'a pas été transformée en filet américain dans les pales d'une éolienne. Et elle a pu rencontrer ce parapluie qu'elle aimait tellement. C'est vrai que ça se ressemble un petit peu, les baleines. Et le... c'est vraiment bien trouvé, cette chanson. Alors, on a déjà parlé tout à l'heure de moyens qui étaient utilisés quand même pour rendre l'installation d'une éolienne sur une pâture assez attractive. Mais il y a d'autres histoires de gros sous là avec ces éoliennes. Hein.
Alors, juste avant les gros sous peut-être que Patrick maîtrise mieux que moi, un mot sur les distances effectivement entre une éolienne et une maison d'habitation. Donc ici, notamment, on vous a parlé en début d'émission du fait que ce soit principalement donc, les villages de Ouattrinsart et le hameau vraiment de Perrensart qui soient impactés. En tout cas, Perrensart situé donc en zone agricole. Ici, il est question d'éoliennes qui font 200 mètres de haut et donc quelque chose dans la région wallonne, ce qu'on appelle un cadre de référence qui n'est même pas une loi, mais un cadre de référence, donc dit que normalement donc, la distance à respecter entre une éolienne et une maison d'habitation, en tout cas une maison d'habitation qui serait située en zone d'habitat à caractère rural ou bien zone d'habitat, c'est 4 fois la hauteur de l'éolienne. Donc normalement il faut respecter une distance de 800 mètres, donc d'une éolienne par rapport à la zone d'habitat, sauf que le hameau de Perrensart, il est en zone agricole. Et donc là, ce fameux cadre de référence dit que, bah, alors on peut se contenter de la moitié de la distance. Autrement dit, le hameau de Perrensart va être entouré de 6 éoliennes de 200 mètres de haut qui vont être à grosso modo 400-500 mètres d'elle. Simplement un petit mot, en Allemagne, des décisions judiciaires ont été rendues qui ordonne, si je puis dire, donc une distance minimale de 2 km entre une maison et une éolienne. Voilà, maintenant je cède la parole à Patrick concernant le point de vue financier.
Oui, je voulais juste poursuivre dans ce que disait Alain. Ça veut dire que nous avons deux types de Belges, ceux qui sont en zone agricole et qui ont une éolienne à 400 mètres de chez eux, et ceux qui sont dans un village et qui ont une éolienne à 800 mètres de chez eux. Alors ces deux types de Belges ont tout de même un point commun, ils payent tous les mêmes contributions. Alors moi je voulais, en parlant d'argent, je voulais aborder le sujet un sujet qui est très à la mode en ce moment auprès des promoteurs. Alors c'est pas un sujet nouveau parce que c'est dans la loi, c'est la participation des citoyens au capital d'une firme promotrice éolienne. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de promoteurs qui insistent beaucoup sur ce sujet. Entrez dans le capital et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Alors quand on entre dans le capital, on achète des actions. Et je vous invite à lire un article sur ce sujet-là dans le prochain Appel des Roches. Nous avons pris un exemple d'une firme éolienne qui existe toujours, parce que ces firmes-là, effectivement, étant entièrement supportées par des fonds publics, sont extrêmement fragiles et très, très, très soumises aux volontés des politiques. Mais prenons un exemple, donc c'est une firme éolienne qui a 10 ans d'existence. Eh bien, en 10 ans d'existence, la valeur de son action a baissé de moins 0,21%, c'est-à-dire que si vous aviez mis 1 000 euros à l'époque, eh bien aujourd'hui vous avez un peu moins de 1 000 euros, bien sûr, on ne parle pas de l'érosion monétaire entre-temps. Ce qui veut dire, en clair, que vous avez perdu de l'argent. Mais vous pouvez aussi avoir des dividendes. Alors, des dividendes qui sont encadrés par la loi en Belgique, qui limitent la distribution à 6%. C'est-à-dire que si vous investissez 1000 euros, vous pouvez au maximum gagner 60 euros. Le problème, c'est que vous ne les gagnez jamais. C'est que quand on regarde ce qui s'est passé là aussi depuis plusieurs années, vous allez gagner, si vous avez investi 1000 euros, vous allez gagner en moyenne entre 20 et 30 euros. Alors la question est la suivante, est-ce que pour 20 euros par an, cela vaut la peine de casser la biodiversité exceptionnelle de la région de Muneau-Sainte-Cécile? Est-ce que ça vaut la peine de réduire à zéro la valeur d'une habitation qui, originellement, en valait beaucoup plus? Est-ce que ça vaut la peine de porter un risque sur la santé des habitants et des animaux, etc., etc. Donc, quand on parle de participation dans le capital, je crois qu'il faut rester très, 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 très prudent avec cet engagement qui, finalement, n'a aucune rentabilité.
Est-ce que des gens qui verraient la valeur de leurs biens réduite à zéro, hein, comme le petit village dont vous parliez, le hameau dont vous parliez, est-ce qu'il y a des recours possibles? De dire, voilà, ma maison valait 200 000 euros, maintenant, elle ne vaut absolument plus rien. Donc, logiquement, il devrait avoir des dommages et intérêts.
Oui, mais ça ne pourra se faire que quand les éoliennes seront installées. Vous ne pouvez pas dire à l'avance. Nous, on a quand même des agents immobiliers qui, effectivement, osent affirmer que ces maisons-là perdront 40 à 50% de leur valeur. Mais c'est une affirmation comme ça. On vous dira, l'éolienne n'est pas là, vous ne pouvez pas donner la preuve que votre maison est dévaluée maintenant. D'accord. Donc si on attend que l'éolienne soit là pour aller demander des recours...
La justice fonctionne sur base effectivement de constats d'un dommage. Donc effectivement, quelqu'un qui subit concrètement un préjudice... Ben, pour qu'il soit indemnisé, il faut qu'il prouve ce préjudice concrètement. Et donc, comme dit effectivement Christine, ben, pour bien faire, il faut attendre que le projet éolien soit construit et qu'il faudrait quasiment que les personnes concernées fassent estimer, expertiser leur maison dès maintenant. Et puis, dans le futur, une fois que le projet éolien serait abouti, terminé, construit, alors ils tentent de vendre leur maison. Ils obtiennent un certain prix de vente de la part d'un amateur, ils voient la différence entre avant et après, et là, alors, éventuellement, ils peuvent intenter un procès en justice.
Mais ça, c'est... Et là, on voit encore qu'il y a deux vitesses. On parlait tout à l'heure des Belges qui habitent dans un village, et puis ceux qui n'y habitent pas et qui ont pourtant une éolienne devant chez eux. Là aussi, il y a deux vitesses. Quand on a construit la E411, on a fait des expropriations, et les expropriations ont été payées. Plus ou moins bien, oui. Bien évidemment, mais elles ont été payées. Donc ça rentrait dans un cadre qui était organisé, prévu, structuré. Ici, il n'y a rien. Donc effectivement, je reviens à ce que disait Alain, si on veut un jour aller en justice, il faut prouver qu'il y a un préjudice. Et bien évidemment, en face de soi, on va trouver les avocats de la partie adverse qui vont prouver qu'il n'y a pas de préjudice.
Oui, oui, et puis les m'avait mentionné une somme, là, un recours au Conseil d'État coûte entre 8 et 10 000 euros. Oui. Donc ce n'est pas non plus n'importe quel citoyen qui peut, en théorie, tout le monde est, on est égaux devant la justice, mais ce n'est évidemment pas le cas. J'imagine que pour une société qui investit des millions comme ça, 10 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Pour
c'est une paille, effectivement, et on n'est pas... Oui, le pot de fer contre le pot de terre, ou inversement, c'est effectivement ça. Encore une dernière précision, parce que je sais, voilà, nous, effectivement, on travaille le sujet depuis 2 ans maintenant, et un peu, évidemment, un peu beaucoup, malgré nous, on est contraint de trouver des arguments de toute nature pour contrer le projet. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on donne des chiffres maintenant qui valent ce qu'ils valent, effectivement, mais malgré tout, voilà, on est obligé, effectivement, de trouver une parade pour nous opposer au projet. Et... Désolé, je ne trouve plus les mots. Je voulais simplement apporter encore une précision, effectivement, sur le fait que, déjà, rappeler que chez nous, il n'y a pas beaucoup de vent, et que donc, normalement, il n'y aurait qu'une production concrète 15 jours sur 10, à peu de choses près, ou un peu plus, 15 jours sur 10. Mais tout ça, effectivement, payé par le citoyen. Patrick qui vient d'en toucher un mot maintenant aussi. Mais donc effectivement, si ces projets des promoteurs éoliens, pour l'instant, explosent, la région Wallonne notamment, la France aussi, enfin, toutes les régions sont envahies par ces projets de promoteurs éoliens, c'est parce que, pour l'instant, en tout cas, en région Wallonne, le promoteur éolien y trouve son compte. Et grâce aux certificats verts, les fameux certificats verts qu'on enlève, notamment des panneaux photovoltaïques, forcément, il faut bien subsidier l'éolien. Et donc, par exemple, 2-3 chiffres comme ça au passage, mais pour une vente, pour un mégawattheure donc, de courant électrique, donc le promoteur éolien peut vendre le courant 30 euros par mégawattheure. Et puis, en plus de ça, la région Wallonne, donc lui donne effectivement 65 euros de certificat vert. S'ajoute à ça 2 euros qui viennent d'une instance européenne. Et donc en tout cas pour l'instant, le promoteur éolien donc gagne un montant de 97 euros par mégawattheure. Et donc ça, ces certificats verts, effectivement, lui sont garantis par la région Wallonne pendant 15 ans. Certificats verts, vous le savez, ce sont les impôts. Donc c'est nous qui concrètement payons l'éolien actuellement, comme d'ailleurs à l'époque, c'était aussi les impôts qui ont payé fatalement l'énergie nucléaire et donc l'installation des parcs nucléaires. On l'a dit aussi, donc en tout cas certificat vert, donc les impôts qui payent. On l'a dit aussi, parce que la production n'est pas terrible en matière de production éolienne, il va falloir compenser. Et ça pour l'instant, on n'a pas encore touché, parce que normalement le grand sujet de l'éolien, c'est de faire en sorte de diminuer... La
production de CO2.
La production de CO2, effectivement. Sauf que là, l'éolien, nous semble-t-il, rate son affaire, puisqu'il ne produit pas beaucoup. Et donc, on est obligé donc, de construire des centrales à gaz. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes promoteurs qui, d'un côté, nous mettent de l'éolien, de l'autre côté aussi, investissent dans les centrales à gaz. Pas bête, effectivement. Et donc, ce sont aussi nos impôts qui, concrètement, payent la construction des centrales à gaz, effectivement. Et donc, on a l'impression, effectivement... Donc, je voulais dire que là, au niveau de la, comment dire, du CO2, effectivement, donc, le bilan n'est pas positif. Si l'éolien, effectivement, en théorie, permettrait une diminution du CO2, oui, mais s'il faut compléter par une centrale à gaz, elle émet énormément de CO2. Et donc, effectivement, donc le marché n'est pas bon du tout aussi de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, quand on sait, quand tout le monde sait, et on est les premiers, tout le monde sait effectivement qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Donc ça, on est tous bien d'accord là-dessus. Mais voilà, on est convaincus, en fouillant un petit peu, que l'éolien n'est pas des mieux placés pour le faire non plus.
Vous m'aviez parlé de solutions alternatives, là, comme des centrales hydroélectriques qui conviennent particulièrement bien dans la région, semble-t-il. Hein. Il y en a une qui est installée à Chigny avec le trop-plein du barrage de la Vierge, je pense.
Oui, ah oui. C'est ça.
Et donc ça fait, comme vous le disiez, la taille d'un garage de voiture.
Alors à Chigny, c'est un peu plus important. Mais l'exemple que je prenais, c'est effectivement, non loin de Muneau, un particulier qui a installé chez lui une turbine qui, effectivement, loge dans un garage de voiture, enfin, en tout cas, le volume d'un garage de voiture. Et m'a-t-il dit qu'il pourrait alimenter 120 ménages. Donc, en imaginant 3 turbines comme celle-là sur un village comme Muneau, on alimente l'ensemble des ménages de Muneau. Ce sont des choses qui ont déjà eu lieu.
Il y en avait autrefois à d'autres endroits de Muneau et d'autres moulins qu'on peut réinstaller et qui suffiraient à couvrir... effectivement un village. Toutefois, après, le problème, c'est l'acheminement du courant, le réseau qu'il faut utiliser. Et c'est là aussi où parfois c'est verrouillé.
Ah oui, oui. Parce que sinon, c'est une solution qui me paraît idéale. Ne fût-ce que des éoliennes pour un quartier qui serait mis dans des endroits particuliers, mais beaucoup plus petites. Et alors, il y a des modèles d'éoliennes, il y en a des dizaines de modèles différents, hein.
Tu veux parler des centrales hydroélectriques plutôt ?
Non, si on veut vraiment des éoliennes, on pourrait mettre des éoliennes intégrées au paysage et locales qui évitent d'avoir ces lignes à haute tension. Et les centrales hydroélectriques, c'est la même chose. Ce n'est pas une production de 2 mégawatts. Et donc la distribution peut se faire localement sans ligne à haute tension.
Alors, pour éviter les lignes à haute tension, c'est vraiment enterrer les câbles. Et de toute façon, je crois que la législation va dans ce sens. Il va falloir enterrer les câbles. Mais en revanche, le petit éolien est prévu sur la commune, mais c'est vraiment un petit éolien qui va pouvoir alimenter, par exemple, un hangar, le hangar d'un cultivateur, d'un éleveur plutôt. Voilà. Mm-hmm. Mais ça sera vraiment de l'énergie locale.
Oui, voilà.
Comme les panneaux photovoltaïques aussi. Et ça va forcément être assez bien développé, et notamment sur la commune.
Ça, c'est vrai qu'effectivement, donc, depuis des années, depuis notamment que le village de Fontenoil a eu effectivement un projet d'éolien aussi, donc déjà à l'époque, le conseil communal donc, a déjà pris des décisions pour s'opposer au grand éolien. Mm-hmm. Mais effectivement, on n'empêcherait pas un éolien plus respectable, plus raisonnable de nos territoires.
De toute façon, dans le schéma de développement communal de la commune de Florenville, le grand éolien est banni. Donc là, en revanche, c'est quelque chose qui est
inscrit.
Voilà.
C'est décision voilà. du conseil communal, effectivement. Oui.
Mais
il y a une certaine valeur.
Ah.
Oui, voilà.
Mais ce n'est quand même pas une garantie qu'il n'y aura pas d'éolien, si je vous comprends bien.
Disons, pour l'instant, on est quand même... on se sent soutenu par la commune de Florenville. C'est un sujet diviseur. Et donc, effectivement, on suppose qu'il y a eu beaucoup de débats aussi, même au sein du conseil communal et au sein du collège final. Nous-mêmes, effectivement, moi le premier, je suis désolé de devoir m'opposer à ce projet éolien, parce que c'est vrai que l'éolien en soi, ça a l'air sympa, ça ressemble à de la production verte et quasiment gratuite, mais quand on fouille un peu, ben, c'est tout sauf ça. Et donc quand je dis que moi-même, je suis le premier désolé à m'opposer à ce projet éolien-là sur notre territoire dans ces conditions-là, je sais que j'ai des voisins, entre guillemets, qui, eux, pensent le contraire. C'est vrai, donc un vrai sujet diviseur, effectivement. Et donc, il y a sûrement, encore une fois, suscité des débats dans les instances communales. Mais voilà, il ressort de ça que le collège a l'air de reconnaître ce que l'on propose, ce qu'on défend. Et du reste, encore une fois, ça correspond à des débats qu'ils ont déjà eus ensemble de leur côté depuis 2016. Mmh. Et donc, effectivement, donc, pour l'instant, la commune de Florenville, nous semble-t-il, nous soutient, en tout cas le collège communal. Ça va être entériné, normalement, je suppose, à un moment donné, par le conseil communal, ça en verra bien, mais on l'espère en tout cas. Et on croit savoir aussi, je crois savoir, que du côté de la commune de Chigny, effectivement, il est question donc, d'un point d'injection sur la commune de Chigny. Apparemment, la commune de Chigny n'est pas très chaude non plus pour accepter... Mmh. Des projets éoliens de cette ampleur.
Et un des points forts de la commune, c'est le tourisme. Et je ne pense pas qu'un barrage d'éoliennes entre Sainte-Cécile et Muneau isolerait totalement Muneau du reste. Les gens ne franchiraient jamais cet endroit. Et Muneau serait condamné entre la frontière française et les éoliennes. Et sur Sainte-Cécile, par exemple, il y a beaucoup d'hébergements touristiques aussi. Et il est sûr qu'on a fait des sondages et que les gens qui viennent là, s'il y avait des éoliennes, ils s'abstiendraient.
Ouais, c'est évident.
Voilà, sur Fontenoil aussi, sur tous les petits villages.
Le temps passe vite, hein, on arrive déjà au bout de l'émission en fait. Je regarde le compteur là, qui est arrivé à 58 minutes et 22 secondes. Enfin voilà, le chiffre n'est pas extrêmement intéressant. Je pense qu'il serait important de rappeler les coordonnées où des gens voudraient prendre contact avec vous.
Oui, c'est facilement donc, l'adresse email de l'ASBL, Patrimoine en Péril, effectivement, donc muno6820@gmail.com. Ou alors forcément, si un jour vous la baladez du côté de Muneau, Sainte-Cécile, il y a bien quelqu'un qui va vous dire « Bah oui, je connais quelqu'un qui fait partie de l'association, effectivement, Christine le rappelait, donc 37 membres effectifs, mais plus de 800 adhérents malgré tout dans la commune et au-delà. » Et donc forcément, il y a bien quelqu'un qui peut vous guider vers un des sympathisants de notre
équipe. D'accord. Et alors le prochain numéro de l'Appel des Roches va sortir quand, lui ?
Le 15 juin.
Le 15 juin. Alors, on n'a plus vraiment le temps d'en parler. Alors, voilà, chers auditeurs, chères auditrices, le 15 juin, si du moins vous habitez dans les communes de l'entité de Florenville, vous le recevrez automatiquement dans votre boîte aux lettres. Et je suppose qu'il y a moyen éventuellement de le trouver, où ça, par exemple ?
À la bibliothèque de Florenville.
Ah, voilà.
Au syndicat d'initiative.
Au syndicat d'initiative de Florenville.
Et de toute façon, on peut aussi l'envoyer par email.
D'accord. Eh bien voilà, je vais vous dire au revoir.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Merci.
On
va
mettre un petit générique pour terminer. Si tout se passe bien. Espérons que le vent apportera de bonnes nouvelles à votre association.
On l'espère tous.
On croit.